un adolescent de 17 ans poignardé.
Une autre femme assassinée.
Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
Comment faire fructifier votre argent sans risque?
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
En manchette dans cet épisode, le chemin Roxham fermerait au terme de la rencontre entre Joe Biden et Justin Trudeau. Ils se rencontreront ce soir. Airbnb rencontre la ministre Caroline Proulx et refuse de répondre aux questions de la presse en sortant. De quoi ont-ils discuté? La suite à bientôt. Une garderie insalubre tolérée par Québec depuis des années. Et une vidéo de Vladimir Poutine à Mariupol relance les rumeurs de sosie.
Tout savoir en 24 minutes.
Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
Alors c'est la nouvelle du jour. Bien évidemment, on se prépare déjà depuis un bon moment à la visite de Joe Biden, sa toute première de son mandat en raison de la pandémie et d'autres raisons. Il n'était jamais venu ici au Canada visiter Justin Trudeau. Et ce qui retient surtout l'attention, c'est que déjà hier, on avait eu une déclaration un peu cryptique de M. Trudeau qui disait que demain, on aurait peut-être des choses à annoncer.
Avec sourire en coin. J'insiste pour le dire. Fallait le voir à télé. Il avait l'air comme content. Un petit peu dans l'œil, il y avait un petit sourire. Là.
Ouais, et cette nouvelle-là.
Mais ce matin, salut, bonjour. Il était plus. On se disait, voyons, il dirait qu'il recule ce qu'il a dit hier, il rebaisse les attentes.
Se sont-tu parlé cette nuit, puis ça allait mal.
Ouais, c'est ça.
Mais quoi qu'il en soit, ça a été tout d'abord rapporté par Radio-Canada plutôt aujourd'hui et par d'autres médias. Semble-t-il que le souhait de François Legault par rapport au chemin Roxham serait exaucé et qu'on serait finalement parvenu à une entente là, sur la migration irrégulière et donc de fermer le chemin Roxham. Évidemment, de quelle façon s'y prendra-t-on pour faire ça? Ça, c'est vraiment la question qui reste sur toutes les lèvres.
Plus les nouvelles sont précises, que ce serait une véritable entente, sur les tiers pays sûrs, sur la fermeture du chemin Roxham, dans les deux directions, avec surveillance, en tout cas. On va voir ce que ça donne. Je reste prudent, là, parce qu'on aura tous les détails de ça, dans quel délai il y a de l'implantation à faire. Puis
il y a un jeu politique autour de ça aussi. Joe Biden lui-même peut pas avoir l'air faible devant ses propres électeurs, devant le peuple américain.
Lui va devoir jouer la carte que là... Moi, si je suis Joe Biden, je vais dire, on a déjà un problème énorme avec la frontière mexicaine. Et là, on avait un nouveau problème avec la frontière canadienne. Là, des gens qui atterrissaient aux aéroports canadiens, qui arrivaient par le nord, des Mexicains. Et donc, je pense que c'est un peu ça que les Américains vont jouer. Ils disent, regarde, on a assez d'un problème à la frontière sud.
On va pas en créer un autre au nord.
C'est-à-dire qu'on va éteindre le feu à la frontière nord avant qu'il soit un incendie complet, là. Donc, moi, je pense que c'est la carte qu'il va essayer de jouer. Lui, il doit y présenter l'intérêt américain.
Ouais, et on s'entendra aussi qu'il y en a de plus en plus de ces interceptions au passage irrégulier du chemin Roxham. Là, on parle de 9392 interceptions au Québec en janvier, en février, là, les deux derniers mois qui viennent de se passer. Donc, au-dessus de 9000 personnes qui ont été interceptées. Le chemin, là, cette route-là bat son plein en ce moment. Et donc, ça devenait de plus en plus préoccupant de le fermer. Est-ce que c'est quand même une grosse victoire pour François Legault qui a pris, là, lui, ouais, là, sa plume pour...
Oui.
Pour attirer
François Legault va en prendre un crédit, le Bloc québécois va en prendre un crédit, tout le monde va y prendre tous ceux qui s'en sont mêlés vont prendre un certain crédit. Mais, en bout de ligne, c'est au crédit de Justin Trudeau, tu sais, politiquement, là.
C'est lui qui négocie tout ça.
Puis la une des journaux, ça va être Trudeau-Biden, puis les nouvelles le soir, ça va être Trudeau-Biden, puis l'entente, ça va être une entente Trudeau-Biden. Puis quand on va en reparler dans 2 ans, on dira pas, tu sais, l'entente du chemin Roxham que François Legault avait demandé. Non, on va dire l'entente qui a été négociée entre Justin Trudeau puis le président américain. Donc, moi, c'est sûr que Justin Trudeau doit être heureux parce qu'il y a eu que des mauvaises nouvelles, ou à peu près, je veux pas exagérer, mais depuis le jour de l'an, depuis le début de l'année 2023, c'était
terrible. Ouais, c'est pas un beau début d'année.
Non. Et là, ce serait vraiment pour lui un premier, puis c'est comme s'il y a ça, puis une couple de bonnes nouvelles économiques, d'entente économique avec les Américains, le voyage, le passage de Joe Biden va passer comme un excellent moment, une excellente journée. Mais tu sais, des fois, une journée qui rattrape une saison là, pour Justin Trudeau.
Ouais, puis une visite comme celle-là aussi, sur un autre plan, celui de la sécurité, c'est toujours assez impressionnant. Merci, là, les journalistes, les gens, même les habitants d'Ottawa qui sont dans le coin du Parlement ont pu apercevoir des mesures de sécurité assez exhaustives. Merci. On parle évidemment de camions qui sont installés dans les rues pour empêcher une attaque aux camions béliers. Oui, ça, des camions dans les rues d'Ottawa.
Ils l'ont déjà vu.
Ceux-là qui klaxonnent pas, par contre, me dit-on.
Comme c'est bien.
Ouais, pas de musique, pas de klaxon, mais il y a des clôtures qui sont installées un peu partout. On sait qu'il y a également beaucoup, beaucoup de membres des services de sécurité, oui, de la GRC, mais aussi des services secrets américains qui sont sur place.
Tout le monde serait surpris quand même s'il y avait 3-4 gars des Secret Service dans un spa sur la rue Wellington.
Oui, c'est vrai que ce serait...
ce soir, là.
Ben,
Pendant que Joe et Justin sont dans leur souper officiel, ce soir là, pour aller prendre un spa.
Ouais, sur un camion mobile, ça, écoute, il aurait pu le garder, hein, ça aurait pu devenir un...
Ben ouais, je sais bien.
Ça aurait pu devenir une installation permanente. Puis en tout cas, aujourd'hui là, c'est les F-18 de Bagotville qu'on entendait, les hélicoptères passer au-dessus d'Ottawa. Donc c'est toujours impressionnant de voir le président américain débarquer dans une ville, puis surtout le déploiement de sécurité là qui
s'en suit. Quand le secrétaire d'État, M. Blinken, est venu à Salut Bonjour. Puis là, tu veux dire c'est pas loin d'être le deuxième homme le plus puissant sur Terre. Sans joke, là, le numéro 2 des États-Unis, responsable des affaires étrangères, là, t'es proche d'être le deuxième plus puissant après le président américain. Ça pour dire que c'était phénoménal. Je veux dire, la rue Maisonneuve était fermée. Pas pendant 3 jours, mais pendant le temps qu'il était dans Salut Bonjour.
Tout a été fermé.
La rue Maisonneuve au complet. Le boulevard Maisonneuve était fermé.
Il va y avoir des gens qui semblaient aller au gym régulièrement, qui se promenaient
dans TVA. Puis hein? Avec des, tu sais, les fameux suburban noirs, là.
Ouais.
C'était un puis un autre. Puis un autre, puis un autre, puis un autre en arrière, puis la police de Montréal, puis non, il y avait, puis la SQ, puis il y avait du monde.
C'est aujourd'hui également que le directeur régional d'Airbnb, Nathan Rotman, et sa collègue, la conseillère Camille Boulet-Pretty, venaient rencontrer la ministre Caroline Proulx, qui devait évidemment s'entretenir avec eux par rapport à cet incendie qui a fait 7 personnes disparues dans le Vieux-Montréal. Une rencontre d'à peu près une demi-heure, Mario, et quand ils sont sortis, ont évité de parler aux journalistes le plus possible. Ils se sont fait poser beaucoup de questions.
Éviter, c'est un euphémisme.
Ouais, exactement.
C'est un faible mot. Ils ont fui les journalistes.
Ouais, ils ont fui les journalistes. Se sont fait questionner, entre autres, s'ils souhaitaient s'adresser aux familles des victimes. Se sont contentés de dire qu'il y avait déjà un communiqué d'envoyer, parce que du côté là, du cabinet de Mme Proulx, la ministre du Tourisme, on veut vraiment réviser la loi sur l'hébergement touristique. On veut rendre les plateformes d'hébergement collaboratif, tout comme Airbnb, imputables. Entre autres, on aimerait là, forcer les annonceurs qui affichent leur numéro de permis qui a été accordé par la Corporation de l'industrie touristique du Québec lorsqu'on offre un logement sur Airbnb. Madame Proulx, ce matin, n'a pas eu sa langue dans sa poche non plus. Elle a dit, c'est drôle, au moment où on veut rencontrer, là, c'est étonnant, depuis la tragédie, des centaines et des centaines d'annonces illégales qui ont disparu d'Airbnb, particulièrement dans le Vieux-Montréal. Donc, il fallait qu'arrive peut-être une tragédie comme celle-là pour que d'un coup, ça se mette à bouger. Est-ce que tu t'attends à ce que Mme Proulx réussisse à serrer la vis à Airbnb? On était encore une fois devant un trop gros titan du web.
Non. Ben, en tout cas, je peux te dire une affaire. Il n'y avait pas l'air d'un géant du web quand ils se sont présentés aujourd'hui. L'impression que ça donnait, parce que là, à sa défense, le pauvre type arrivait devant un meute des journalistes. Il n'y avait pas vraiment de sécurité. Il n'y avait pas vraiment d'attaché de presse. Personne pour pousser les journalistes avec son bras, puis dire... il était comme...
jeté au loup.
Ouais, pris en otage, puis ça avait l'air... ça avait pas l'air d'une grosse organisation, là. Fait que ça m'a dit, peut-être qu'Airbnb au Canada, c'est pas... c'est une grosse organisation aux États-Unis, mais leur branche canadienne, c'est peut-être pas si gros que ça, pas si structuré que ça, je sais pas. Mais ils ont pas le choix. Par contre, j'écoutais les questions que les journalistes leur posaient, puis là, je sais que les journalistes voulaient faire réagir le monsieur, là, on le piquait.
Ouais,
mais on lui demandait, il y a même un journaliste qui a parlé de mort sur les bras. Excusez-moi, là. Airbnb, c'est un site qui met en lien des gens qui veulent louer un appartement avec des gens qui ont des appartements à louer. Je veux dire, la sécurité des lieux, c'est le propriétaire. C'est pas Airbnb qui est responsable de la sécurité des lieux. Ce sont les propriétaires. À Montréal, t'as une loi, t'as une réglementation municipale, t'as une régie du bâtiment, t'as toutes sortes de règles selon la grosseur de ton bâtiment que le propriétaire doit respecter. Je pense pas que c'est la firme Airbnb. Bon, si Airbnb loue des logements qui sont illégaux en connaissance de cause, ils ont une responsabilité. Puis c'est correct qu'ils rencontrent la ministre qui a répondu de leurs actions. Mais là, il y a une coche, faut pas se rendre. Puis je veux dire, Airbnb, je serais curieux parce que là, tous les députés ont l'air d'être anti-Airbnb. Moi, je suis le premier à poser des questions à Airbnb, à vouloir que
ça se fasse mieux encadré.
Mais j'ai l'impression que la moitié des élus là, qui ont l'air d'être anti-Airbnb l'utilisent dans chacune de leurs vacances, comme moi, là.
Oui.
Fait que là, tu sais, c'est juste, faut juste remettre les choses en perspective, juste retomber sur nos pattes puis dire qu'est-ce qu'on veut d'Airbnb, qu'est-ce qu'on demande d'Airbnb pour la sécurité, pour le bien, mais
faut éviter de les démoniser quand
même. Ben là, il y a un point de rupture. Ah, c'est parce que c'est pas sérieux, mais les élus font souvent ça, dire des choses qu'ils croient pas là, mais là dans ce cas-ci, faites un peu attention là.
Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
Toujours sur la colline parlementaire, nos collègues du bureau d'enquête rapportaient ce matin qu'une garderie insalubre a été tolérée pendant des années par Québec, et ce même si il y a eu un total de 45 plaintes, 52 inspections depuis 2012 dans la garderie non subventionnée Le Petit Monde d'Ananou, qui se trouvait à Mascouche. Et là, on apprenait aujourd'hui, entre autres, qu'au fil des ans...
C'est parce que Le Petit Monde, là, on pensait au départ que c'était les enfants qu'on appelait Le Petit Monde, mais finalement, c'était les insectes.
Oui, c'était les autres petits petits habitants qu'on trouvait dans cet endroit-là.
Il y avait encore plus un petit monde. Les enfants, ils étaient encore plus petits.
Ouais, beaucoup de locataires, disons, ouais. Beaucoup de pensionnaires dans cette garderie, à commencer par des fourmis mortes sur le plancher, des coquerelles mortes aussi qu'on trouvait à des endroits, des excréments de rongeurs dans un berceau. Il y a également toutes sortes de manquements au niveau de la santé, de la sécurité des enfants. En 2019, la garderie aurait privé un enfant de repas, aurait omis d'isoler un autre enfant qui avait subi un accident sérieux. En décembre 2020, un enfant qui est attaché sur une chaise pour l'isoler. Deux reprises l'été passé, à l'été 2022, des enfants qui ont été laissés sans surveillance. Et là, ce n'est qu'en novembre 2022, finalement, que le ministère a conclu que la garderie n'aurait pas de permis de renouvellement de leur permis.
Ben, c'est ça que j'allais te dire. Leur permis n'a jamais été suspendu.
C'est ça, parce qu'on aurait pu le révoquer.
Non, mais c'est ça. C'est vraiment là, au moment du renouvellement... que là, donc tout avait été toléré. Ça n'a pas été toléré, dirait le gouvernement, parce qu'ils ont payé des amendes à certains moments, mais quand même, tout avait été accepté, ils ont resté ouverts. Mais au moment du renouvellement de permis, là, comme on dit, là, le breaker, le disjoncteur a agi. Là.
Ouais.
Mais jusque-là, ils avaient fait une décennie avec plein de problèmes.
Ouais, et là, ce qu'on comprend aussi, c'est justement, en novembre 2022, on aurait pu révoquer tout bonnement le permis et dire à partir de maintenant, c'est fini. Mais on a laissé jusqu'à l'échéance, trois mois de plus, jusqu'au 17 février dernier pour que finalement ce soit échu, ce permis-là, dans la garderie.
Ce qui mais fait... on comprend que c'est des parents qui n'auraient pas d'autre place. Et ça, c'est la grande difficulté pour les parents. Parce que ce matin, j'ai parlé avec une ex-intervenante, une ex-éducatrice qui a été là. D'ailleurs, pour les insectes, qui me disait, oui, on trouvait beaucoup d'insectes morts, on les voit sur les photos dans le journal. Mais m'a confirmé, il y avait aussi des insectes vivants, parce qu'à un moment donné, elle avait un petit poupon qui faisait la sieste, puis elle allait le chercher, puis il y avait des fourmis d'en face, puis c'est bon. Fait que, oui, bien.
Oh, ça vient me chercher, moi.
Elle dit, tu sais, il y avait des problèmes, là. Tu ouvrais le frigidaire, ça sentait liable, les repas, c'était pas salubre, des problèmes connus, mais elle dit, en bout de ligne, les parents savaient probablement que c'était pas parfait. Ils étaient peut-être pas conscients de l'ampleur des problèmes, mais ils savaient que c'était pas parfait. Sauf que les parents, il y en a pas d'autre place, là. T'as un travail, t'as un boulot, faut t'aille gagner ta paye.
Ouais.
T'as trouvé une place en garderie. Après X recherches, t'as trouvé une place en garderie.
Dans ta région, fort probablement.
Pas trop loin de chez vous. Mais si tu renonces à ta place en garderie, ou si ça ferme, t'es cuit, là.
Ouais.
T'as pas d'alternative.
Et la ministre de la Famille, Suzanne Roy, qui a dû réagir ce matin, parler d'événements totalement intolérables, a dit également là, qu'elle allait revirer toutes les pierres pour être sûre que ça ne se reproduise plus jamais. Ce furent ses mots aujourd'hui. Elle n'a pas confirmé, par contre, qu'il y aurait des gens, là, des têtes qui rouleraient, des gens qui perdraient leur travail, leur emploi, suite à cette histoire. Mais elle va vérifier les faits autour de tout ça. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même là, une suite là, du côté du ministère. Ce matin, la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, a annoncé avoir arrêté un Montréalais de 18 ans qui est soupçonné, Mario, de terrorisme. Mohamed Amin Assal, qui aurait déjà partagé sur un réseau social, lui, son fantasme de commettre une attaque terroriste dans un rassemblement de politiciens. Et là, au fur et à mesure où la journée avançait, on a compris qu'il y avait vraiment là, des motifs sérieux d'aller arrêter le jeune homme. Et on dit, on voulait l'arrêter pour l'empêcher de commettre peut-être là, un geste imminent. Et là, lui, aurait déjà offert des conseils sur Internet pour la confection d'objets explosifs artisanaux, là, même il y a une dizaine de jours avec un autre internaute. On l'avait, entre autres, là, il parlait à d'autres élèves, d'autres étudiants avec lesquels il étudiait, des camarades de classe. Il les appelait à soutenir l'État islamique. Il en a parlé à son petit frère de 9 ans. Il partageait du matériel de propagande terroriste affilié avec l'État islamique. Et donc, là, on voulait, dit-on, du côté de la GRC, perturber ses activités suspectes. Et donc, il a dû comparaître avec une évidemment une promesse de garder la paix. On n'a pas précisé exactement de quel genre de geste là, il aurait pu poser. C'est quand même extrêmement surprenant d'apprendre cette nouvelle-là aujourd'hui.
Mais surtout 18 ans, c'est quand même vraiment, vraiment jeune. On remarque des actes terroristes, il y en a qui ont été commis par des gens très jeunes.
Oui, c'est la radicalisation, ça peut survenir là, avec,
ouais,
avec le web.
18 ans, c'est ça. C'est vraiment très, très jeune. Mais ouais, c'est difficile à commenter cette nouvelle-là, on sait rien. En même temps, c'est comme si on avait moins entendu parler de ça récemment, là, des gens qui adhèrent au groupe armé État islamique ou qui veulent...
Ouais, c'était moins au goût du jour, ben, disons.
On entend moins parler leur recrutement en ligne ou leur activité en ligne pour motiver d'autres gens.
Font moins la manchette, mais lui avait quand même laissé planer son intention de quitter le Canada pour se rendre, là, aller rejoindre l'État islamique outre-mer. C'est un étudiant, lui, là, en maintenance d'aéronef de l'École nationale d'aérotechnique à Longueuil. Donc, il s'est fait épingler à cet endroit-là aujourd'hui. Donc, à voir pour le reste, là, ce qui en sera tout ça.
D'après moi, pour sa carrière en aviation, le domaine à peu près où la sécurité est la plus grosse obsession, c'est pas une bonne arrestation. Là.
Non, habituellement, un antécédent d'arrestation pour terrorisme, c'est peut-être pas la meilleure chose.
Pour aller travailler dans le domaine, ouais, c'est ça, pour aller faire de l'entretien des avions, pour être le dernier qui surveille le moteur avant de fermer le capot, là. Je sais pas.
Tout savoir en 24 minutes.
L'identité de la victime d'Harold Lebel va finalement être dévoilée le 18 avril prochain. C'est ce qu'on a annoncé du côté du juge Serge Francoeur, lui qui a pris la cause de la victime dans cette histoire-là en délibéré, mais pas, comme il dit, là, sur le fond, mais sur la mécanique. Donc, pour que ce soit, donc, qu'elle puisse être identifiée le 18 avril prochain, c'est pas un hasard tout ça, c'est que ça concorde avec la sortie d'un documentaire sur son expérience, donc auquel elle a participé, la jeune femme qui expliquait que la seule raison qui motive sa requête, c'est participer à ce documentaire du bureau d'enquête de Québécois qui va justement être rendu disponible le 18 avril et elle veut transformer le cauchemar de son agression en quelque chose de positif. Donc, ça donne suite à tout ça. Puis comme on en parlait un peu hier, Mario...
Ce que je comprends, c'est qu'elle avait expliqué le processus judiciaire, démystifier pour les victimes le processus judiciaire.
Ouais, par où il faut passer exactement, comment on peut dénoncer, comment on se fait accompagner dans le système judiciaire québécois. Bref, décider de faire œuvre utile d'une expérience qui est était évidemment horrible pour celle-ci. Je rappelle qu'Harold Lebel, lui, a pu sortir déjà, là, profiter d'une première là, permission de sortie préparatoire à la liberté conditionnelle.
Et mais donc, je pense que la liberté conditionnelle, on va être dans les mêmes jours que la sortie du documentaire. On parle, ouais, de ça le 18 avril, en tout cas, à quelques jours près. Là.
Ouais, d'ici jusqu'au 16 avril, très 16 exactement. Avril, là, il va être dans une maison de transition, doit suivre un programme de thérapie pour traiter des problématiques d'ordre sexuel, de dépendance affective, entre autres. Lui, semble-t-il, qui a beaucoup cheminé depuis son incarcération, ce qui fait qu'il peut déjà être placé en libération conditionnelle comme ça. Il a fini, entre autres, par reconnaître l'agression qu'il a imposée à sa victime. Un cas judiciaire, Mario, absolument ahurissant, qui est paru aujourd'hui, une Montréalaise qui a été acquittée de conduite avec les capacités affaiblies dans une bien drôle d'histoire. Je reprends depuis le début. Arwa Ben Mohamed, un soir de janvier 2017, quitte le domicile de ses amis plus tôt. Elle a consommé, là, sur 3h30, 2 verres de vin, 2 gin tonic environ. Prend le volant et pendant qu'elle conduit, expérimente un blackout. Donc, elle est tellement saoule, soudainement, qu'elle perd possession de ses moyens, fait même ce qui semble être un accrochage. Son véhicule est en mauvais état et finalement se fait arrêter. Et elle a, à ce moment-là, dans son sang, 175 mg d'alcool par 100 ml.
Donc, le 0.16. Ouais, le double du 0.08.
Le double du 0.08. Et là, elle se demande, bien évidemment, ce qui s'est passé pendant cette soirée-là. Elle dit, je pense pas avoir été droguée par mes amis, mais en même temps, je peux pas comprendre qu'un 4 verres comme ça sur 3h30, je me suis retrouvé aussi saoul.
4 verres sur 3h30, c'est qu'il y a des gin tonic que t'as pas mesuré, que ça peut devenir 4 verres et demi, 5 verres, dépendamment de ton poids.
Oui, elle aurait pu flirter avec la limite.
Elle aurait pu flirter avec le 0.08. C'est sûr que le 16, c'est beaucoup.
Oui, c'est 0.16, c'est beaucoup pour 4 verres, mais là, ce qu'elle a découvert, c'est que plusieurs mois plus tard, pendant, évidemment, on prépare le procès, il y a un rappel sur les bouteilles de gin Bombay Sapphire, qui est le gin qu'elle avait consommé ce soir-là, parce que ces bouteilles-là contenaient pas le 44% d'alcool indiqué, mais 77% d'alcool. Et alors là, elle fait 1 plus 1 égale 2. Il y a un rappel sur les bouteilles. C'est exactement les bouteilles comme ça qu'elle a consommées à ce moment-là. Et donc, ce serait pour ça qu'elle aurait expérimenté à ce moment-là.
Le gin était trop fort.
Le gin était beaucoup trop fort. Et donc, en buvant, le dernier gin ou un de ses derniers verres serait embarqué, selon un expert qui a été appelé là à la défense là lors de ce cas-là. Mais son gin, le dernier, serait entré dans son sang pendant qu'elle conduisait, ce qui aurait fait en sorte qu'elle aurait perdu tous ses moyens comme ça et finalement causé des accrochages. Et donc, elle a été acquittée de conduite avec les facultés affaiblies. Tout ça en raison de ce gin trop fort qui a été rappelé.
Ben... Je dois m'avouer surpris. C'est-à-dire que si elle s'était fait prendre à 0.10, mettons, ben à la limite 0.11, mais là, au double, 0.16...
En même temps, je bois pas souvent du 77%, Mario, je vais te dire, mais c'est comme de l'alcool à friction, quasiment, c'est fort.
Non, hein? C'est vraiment fort dans un gin tonic, mais... Tu devais le sentir, là, quand tu bois un gin tonic, tu le sais, il est fort, tu me l'as fait trop fort, tu me l'as fait pas assez fort.
Ouais, ben de la lime, je sais
ben
pas.
De la lime. Écoute, je pense que le juge, c'est comme on dit souvent, je pense que le juge, j'ai regardé ça comme il faut.
Ouais, exact.
Je me dis néanmoins étonné, compte tenu de l'écart important avec le 0.08. C'est, normalement, son expert, là, les avocats de la défense vont garder son nom.
Économie.
On a eu des nouvelles aujourd'hui de la rémunération que touchait l'ancien premier ministre Jean Charest parce qu'il a siégé au conseil d'administration du Canadien national, pour ceux qui s'en souviendront, l'an dernier. Peut-être qu'il y a des gens qui ont oublié, c'est parce que c'était pas très long. Il est resté 2 mois parce qu'il s'est lancé par la suite
à la course
à la chefferie du Parti conservateur du Canada.
Ça a pas bien été, ça.
Non, ça s'est pas très bien passé, finalement, sa course à la chefferie. Perdu contre
Pierre Poilievre.
Pierre Poilievre.
Mais là, quand je vois ces chiffres-là, je me dis, il est vraiment tombé sur la tête d'avoir quitté ça pour aller se présenter dans une course où il y avait aucune chance.
Oui, parce que en deux mois, ben, il a reçu 68 987 $ pour 2 mois de rémunération. Donc, près de 70 000 $ qui lui ont été donnés pour 2 mois.
Mais c'est parce qu'il n'est pas un employé à temps plein. Il siège au conseil d'administration. Est-ce que c'est des jetons de présence?
En fait, on ne sait pas. On n'a pas précisé à combien de réunions du conseil il a assisté au cours de cette période de 2 mois.
C'est maximum 2, là. Tu peux pas en plus qu'une par mois.
Ben voilà. Puis d'un coup, il y en a manqué une. Mais
ben c'est, là, c'est, non, ça, je pense
ça,
pas. Là. Mais,
ça devient cher de la,
ben faut
de la
que
réunion.
Faut-tu payes? Tu vas avoir un ancien premier ministre, ton conseil d'administration. Faut-tu payes?
Voilà. Donc, on en a appris aussi parce que les rémunérations des autres gens...
C'est vrai que sur une année, il aurait fait minimalement 6 fois ça, 420 000.
Ouais,
pas pour une job à temps plein, juste pour un conseil d'administration.
La présidente du conseil du CN, elle a gagné 580 000 $ à peu près sur la dernière année. La PDG, elle, Tracy Robinson, c'est 13,7 millions de $.
Non, mais ça, c'est pas
donc...
pareil. C'était la PDG.
Non, ça, c'est
les autres,
gens...
ils siègent sur un conseil, c'est des réunions. Je sais pas, c'est des réunions très importantes, là, mais quand même, t'es payé pour lire les documents la veille. Là,
si le CN t'appelle, Mario, tu vas-tu y aller?
Mais je pense que je serais précieux pour le CN, pour vrai. Là.
Ouais.
Mais oui, je connais ça, les trains, moi.
Oui, mais moi aussi, j'ai jeune âge, je suis jeune, mais moi aussi, j'aime ça, j'ai joué avec des trains jouets quand j'étais jeune. Appelez-nous, on a des conseils pour vous.
Fait que Jean Charest a quitté une job qui donnait 35 000 $ par mois pour aller se présenter contre Pierre Poilievre.
Et perdre.
Le Monde.
J'en parle en dernière heure, Mario, parce qu'avec le décalage horaire, on en reçoit souvent les nouvelles de soirée, là, commencent à arriver en France, et c'est assez violent ce qui se passe en ce moment. Plusieurs manifestations qui ont dégénéré, semble-t-il. Il y a des incendies qui sont en cours à Paris, où il y a énormément de tensions.
Il y en a eu aussi à Bordeaux, j'ai vu au moins un incendie majeur, là.
Ouais, une image qui vraiment est frappante, là, l'entrée, comme la porte, l'espèce de, c'est souvent des beaux bâtiments historiques, là, le cadre de porte de la mairie de Bordeaux est en feu. là, vraiment d'énormes flammes qui ressortent de là, alors qu'il y a des barricades énormes, entre autres faites en partie de déchets qui ont été érigés dans les rues de Paris. Moi, j'ai moi-même un collègue et ami qui est en France en ce moment, qui allait être là pour travailler. Tout est en grève, il peut pas aller nulle part. Là, la Tour Eiffel est fermée, le Versailles était fermé également aujourd'hui.
La ville de Paris était pas trop praticable.
Paralysé au grand complet, même qu'il me racontait que ce matin, ils ont frappé 5 heures de trafic, Mario, sur l'autoroute, 5 heures, parce qu'il y a des barricades de pneus enflammés qui ont été érigés un peu partout sur les routes du pays. Vraiment, là, la réforme de l'âge des retraites qui passe très, très mal en France. Puis ça se répercute comme ça un peu partout sur la population et sur les touristes, malheureusement, qui ont le déplaisir de s'être rendus là.
Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.